Vous écoutez, on lit pour vous.
Cessons de refiler nos problèmes à l'école. Un texte de Normand Baillargeon paru le 27 janvier 2024 dans Le Devoir. Les ententes ont donc été négociées après une grève historique, mais elles peinent à être approuvées par les membres des syndicats qui les ont conclues. C'est rare et étonnant. Ces ententes, qui semblent pourtant satisfaisantes sur le plan salarial, prévoient des manières de résoudre le grave et récurrent problème de la composition de la classe qui était au cœur du conflit. Le moins que l'on puisse dire est que ces solutions ne semblent pas être perçues par les parties concernées comme pouvant le résoudre. Elles ne suscitent d'ailleurs pas l'intérêt souhaité et, nonobstant les primes prévues, on ne se précipite pas pour accompagner les élèves qui en ont un urgent besoin. Le plan de rattrapage devra sans doute être revu. Une part de l'explication de tout cela est qu'on manque de personnel. Une autre, cruciale et qu'il faut rappeler, est que notre système scolaire, avec son privé grassement subventionné et très inégalitaire, ce qui fait qu'un nombre démesuré d'élèves en difficulté se retrouve dans le réseau public qui peine à répondre à leurs besoins, ce qui incite des parents à aller au privé, ce qui fait que le public a plus de mal à répondre aux besoins de ses élèves, ce qui... Mais prenons par rapport à tout cela un peu de recul philosophique. L'école et la société. L'école, institution centrale de la vie démocratique, peut et même doit contribuer à la santé de la vie politique, notamment en formant des citoyens. Mais elle ne peut créer la vie politique et encore moins en résoudre les plus fondamentales questions. Elle a donc besoin, pour jouer son rôle, d'une vision, d'un consensus politique minimal. Celui-ci contribue à la définir et la met à l'abri de certaines tensions et polémiques. De ce point de vue, je pense que ce que le système scolaire nous dirait en ce moment, si on lui prêtait une oreille le moindrement attentive, ce serait « Réglez vos problèmes politiques, ne nous les envoyez pas en nous demandant de le faire à votre place, ce n'est pas notre rôle et nous ne sommes de toute façon pas en mesure de le faire. Mais nous ne pouvons pas fonctionner et faire ce que nous devons faire si vous ne les réglez pas. Si un vaste consensus social et politique n'a pas été atteint sur ces grandes questions normatives qui définissent ce que nous devons être. Des exemples? Quelle valeur accorde-t-on à l'éducation? Comment forme-t-on des enseignants en nombre suffisant? Le privé subventionné est-il acceptable? La laïcité et laquelle s'applique à qui et comment? Quel est notre idéal de citoyen et par quel savoir est-il formé? Quelle égalité des chances devrait-on viser et comment? Dites-nous tout cela et bien d'autres choses encore. La collectivité et le « pas seulement la » politique doivent répondre à de telles questions pour que l'école puisse exister et accomplir ses vitales fonctions. L'actualité nous le rappelle encore en ce moment avec la très clivante question de l'immigration. On en parle beaucoup dans le délicat dossier de la crise du logement, mais l'école ne peut l'ignorer. Elle entre en effet en elle de toutes parts, notamment par la composition des classes, par la langue qui est parlée un peu partout dans l'école et par les valeurs, parfois divergentes, de certains groupes sur divers sujets. Pour décider ce que l'école doit être et, en conséquence, faire, sur des choses très concrètes comme le curriculum qui devra être transmis et le type de citoyen qu'elle devra former, il lui faut savoir ce que la collectivité a décidé pour elle sur un grand nombre de délicates questions préalables. Quelle idée de la nation incarne-t-elle? La citoyenneté, est-elle multiculturelle, interculturelle, identitaire? Et la laïcité? Quelle place fait-on à la nation, selon le sens qu'on lui donne dans l'enseignement de l'histoire ou de la littérature, dans l'organisation de l'espace, doit-il y avoir des salles de prière ou pas? Tout cela vaut-il dans toutes les écoles privées et publiques ou seulement dans certaines d'entre elles? Dites-le-nous. Nager à l'aveugle. Tant qu'on n'a pas, comme c'est trop souvent le cas en ce moment, de réponse claire à ces questions et à bien d'autres du même ordre, l'école fait de son mieux pour fonctionner en improvisant des réponses à des questions auxquelles elle n'a pas à répondre. Et sans ces réponses qui doivent venir du politique, elle ne peut pleinement jouer son rôle. Reconnaissons-le, le politique ne le fait plus ou le fait mal. Nous nageons donc à l'aveugle en faisant de notre mieux. La profession est désertée, les solutions imaginées ne fonctionnent pas et ne satisfont à peu près personne, faute d'un idéal normatif largement consensuel. Comment le trouver? Je persiste et signe, sans une commission parent 2.0, sans cette vaste et sérieuse réflexion collective sur l'éducation, sur ce qu'elle doit être selon nous et pour nous, nous continuerons de faire face à ces impasses, et à d'autres encore, sans doute, que nous ne soupçonnons pas. C'était « Cessons de refiler nos problèmes à l'école », un texte de Normand Baillargeon paru le 27 janvier 2024 dans Le Devoir.
Les enseignants ont-ils 2 mois de vacances payées? Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 22 janvier 2024 dans La Presse. Il s'est dit et écrit beaucoup de choses sur les conditions de travail des enseignants ces dernières semaines. Les salaires ont fait les manchettes, mais il a aussi été question des vacances sur les réseaux sociaux. Des publications abondamment partagés, ont dénoncé l'absence de congés rémunérés par l'employeur, malgré la loi sur les normes du travail. Les fameux 2 mois de vacances payées l'été, qui font tant de jaloux, ne serait qu'une vue de l'esprit. Vraiment? Nous n'avons aucun congé payé par l'employeur. Nous finançons tous nos congés, vacances et fériés, à partir de notre propre paie, a écrit Valérie dans une publication intitulée « Fonctionnement réel du salaire des profs » qui a suscité beaucoup de réactions sur Facebook. Ceci rétablit les faits. Pour ceux et celles qui envient nos vacances, dites-vous qu'elles sont toutes à nos frais, a commenté un internaute qu'on devine être un enseignant. Une autre réaction parmi tant d'autres, ils ont 0 semaine de vacances payées, alors que même un ado qui travaille au Subway va avoir 2 semaines. Des débats sur la rémunération des enseignants ont aussi éclaté sur le réseau social X. Les profs ne sont pas payés à Noël, ni à la relâche et ni l'été. L'affirmation n'a toutefois pas convaincu tout le monde. Mais c'est de même pour tous les employés. Nos vacances sont une part de notre salaire prélevé tout au long de l'année. Alors, qui dit vrai? Les enseignants ont-ils la particularité d'être contraints à financer leurs vacances, pour reprendre leur expression? Qu'en est-il des autres travailleurs payés à l'année et à l'heure? À la Fédération autonome de l'enseignement, FAE, on m'a d'abord prévenu que la rémunération des profs est l'une des plus complexes, ce qui peut provoquer de la confusion et de la frustration, surtout parmi les plus jeunes. Ça se résume ainsi. Tu travailles, t'es payé, tu ne travailles pas, tu n'es pas payé, m'a dit Benoît Giguère, vice-président aux relations de travail de la FAE. Puisqu'il travaille 200 jours par année, les enseignants sont payés pour 200 jours. Depuis 1997, La rémunération est toutefois étalée sur toute l'année, soit 26 paies. Ainsi, lorsque l'école est fermée, en raison d'un férié, de la relâche, de Noël ou de l'été, les enseignants reçoivent quand même un revenu. Cette méthode, imposée par le gouvernement de Lucien Bouchard, n'est pas remise en question, indiquent la FAE et la Fédération des syndicats de l'enseignement, FSE-CSQ. Au contraire, règle générale, leurs membres y sont favorables parce que ça facilite grandement la gestion du budget. Pour permettre cet étalement, le salaire annuel n'est pas divisé par 200, mais plutôt par 260, ce qui correspond au nombre de jours ouvrables dans une année, 52 semaines fois 5. L'actuel salaire de 92 027 $ au sommet de l'échelle équivaut à 347 $ par jour, un 260e ou 460 $ par jour, un 200e. Sur leur paie, les professeurs reçoivent le plus petit montant des deux. La différence leur permet d'obtenir 26 paies par année. C'est probablement cette façon de faire qui donne l'impression aux enseignants de financer leurs vacances. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionne de la même manière pour tous les travailleurs qui ont un salaire annuel. Lorsqu'on est payé à l'année, on ne reçoit pas un extra de son employeur pendant les vacances. Ça ne marche pas comme ça. L'employeur qui accepte de donner, disons, 100 000 $, que ce soit pour 48 semaines de travail ou pour 40, il verse une rémunération pour retenir les services de la personne toute l'année, explique Louise Overbeek, maître d'enseignement au département des sciences comptables à HEC Montréal. Le talon de paie des professeurs est cependant différent de celui d'autres employés payés à l'année, ce qui brouille sans doute les cartes. Imaginons un informaticien qui gagne 92 027 $. Sur le document fourni par son employeur, une certaine proportion de son salaire annuel est inscrite à la ligne « vacances » et une autre se trouve sur la ligne « férié ». De leur côté, les professeurs observent plutôt que 100% de leur rémunération de 92 027 $ est versée en salaire. Mais au bout de l'année, concrètement, ça ne change rien du tout. Les deux professionnels obtiennent exactement le même montant d'argent qu'ils aient eu 2, 4 ou 12 semaines de vacances. Bien entendu, cela est conforme aux normes du travail. Les choses sont différentes dans le cas de cet adolescent qui travaille chez Subway. Parce qu'il est payé à l'heure, il accumule un montant additionnel pour ses vacances au fil du temps. C'est ce qu'on appelle communément le 4%. Ce montant versé par l'employeur au travailleur en congé s'ajoute à la rémunération ordinaire. À compter du 1er avril, les enseignants du primaire et du secondaire qui sont au sommet de leur échelle salariale toucheront 100 280 $, soit 501 $ et 40 par jour travaillé, même si les talons de paie indiqueront plutôt 385 $69. C'était « Les enseignants ont-ils 2 mois de vacances payées ?» un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 22 janvier 2024 dans la presse.
Pascal aux mains d'argent. Un texte de Émilie Côté, paru le 21 janvier 2024 dans la presse. Les amis, venez voir, il y a des ours polaires dehors, venez voir, a lancé lundi dernier, sous le coup de l'émerveillement, le petit Clovis aux camarades de son groupe de la fenêtre de leur local de garderie. Cet hiver, les gens de Villeray ont vu apparaître, comme par enchantement, des sculptures de glace d'animaux rue de Castelnau. Après celle devant le café Ferlucci, d'autres ont pris forme devant l'église Sainte-Cécile, ajoutant ainsi de la féerie au froid de janvier. L'œuvre d'Édouard Romain d'Argent? Plutôt celle de l'artiste Pascal l'Italien. J'ai vraiment sous-estimé la réaction des gens, lance la sculptrice qui se souvient pourtant comment petite elle était impressionnée par les œuvres enneigées de son oncle d'Ottawa. Dans le regard d'un enfant, les animaux sont énormes, souligne-t-elle. Il y a 2 ans, Pascal a commencé à faire des sculptures dans la cour arrière de son appartement de la rue La Jeunesse, tout simplement parce qu'elle avait facilement accès à de la neige. Ma propriétaire a tellement trippé que j'ai décidé d'en faire sur la terrasse de mes amis du café Ferlucci, raconte-t-elle. En décembre dernier, elle a profité d'une bordée de neige pour transformer des flocons en chiens, qui ont fondu, mais auxquels se sont ajoutés ensuite un manchot et un phoque. Encore là, la magie a opéré au-delà des espérances de l'artiste, si bien qu'elle a décidé de profiter d'une autre tempête pour sculpter 2 ours polaires devant l'église Sainte-Cécile. Comme nous habitons dans le quartier, c'est vraiment beau de voir les gens s'arrêter spontanément pour admirer les bêtes enneigées avec curiosité. Soulignons que les 2 colosses sont à 1 coin de rue de l'école primaire Sainte-Cécile et de 2 centres de la petite enfance. J'aime tellement faire ça. Je le fais par plaisir, mais tant mieux si ça prend de l'envergure, dit Pascal l'Italien. Les sculptures sont belles à voir, mais elles sont aussi la source d'interactions sociales spontanées. Lors de notre rencontre avec Pascal l'Italien, un homme avec un écusson d'ours sur son manteau s'est approché d'elle. « Je travaille pour les bières boréales. Est-ce que je pourrais prendre des photos avec des canettes? » a-t-il lancé. L'hiver en nous. Quand l'idée de cet article est née, un soir, après la sortie des classes, Pascal l'Italien prenait soin de ses ours en jasant avec la mère du petit Clovis, citée en début de texte. Un autre beau hasard, puisque Marie-Hélène Roch, c'est son nom, est une artiste chercheuse qui a fondé le projet Hiver en nous. Celle qui a entrepris un doctorat en études et pratiques des arts s'intéresse à l'humanité de l'hiver urbain. En 2021, elle a notamment accompagné la coalition des Amis du Parc Jarry dans la mise en œuvre de la forêt éphémère au Parc Jarry. Pour Marie-Hélène Roch, la neige est un privilège. Elle souhaite que les gens développent une sensibilité nordique au lieu de pester contre l'hiver. La neige est éphémère, surtout en ville. Elle peut apparaître ou disparaître en quelques heures, ce qui la rend à la fois énigmatique, précieuse et magique, expose-t-elle, ce qu'incarne dans toute sa splendeur le geste artistique de Pascal l'Italien. C'est de l'art public de proximité qui a l'effet puissant de nous rassembler et nous apaiser collectivement. C'est aussi une invitation à ralentir et à prendre le temps de s'arrêter. Des animaux en neige, c'est de l'art naïf, surtout auprès des enfants, mais tant mieux si ça peut éveiller une conscience quant à leur nature éphémère, lance avec humilité Pascal l'Italien. Elle est la preuve qu'il faut s'approprier l'hiver à sa façon pour l'aimer. C'est depuis que je joue avec la neige que j'apprécie l'hiver. Ne rien tenir pour acquis. Dans sa pratique artistique, Pascal l'Italien s'est fait connaître pour ses sculptures en forme d'aliments ou de plats, qu'elle a notamment vendues à plusieurs restaurants, dont Fleurs et Cadeaux. Il faut savoir qu'elle travaille dans le milieu de la restauration depuis l'âge de 14 ans. C'est au début de la pandémie, sous le choc de voir son milieu cesser ses activités, que l'artiste s'est mise à créer des produits qui ont une résonance nostalgique, que ce soit un pogo, un cherry blossom ou un sac ouvert de party mix. En cette période d'inflation, constate-t-on à la dure, disant que la nourriture, comme la neige, est une autre chose que l'on a peut-être trop tenue pour acquise. Rêver enneigé. Un artiste souhaite toujours que son art ait une portée et un sens, souligne Pascal l'Italien. Mais ses sculptures de glace lui donnent un contact avec les gens qu'elle n'a pas dans son atelier. Je ne m'attendais pas à ce que les gens m'arrêtent autant, et ce n'est que pour du positif. Pascal l'Italien aurait aimé faire plus de sculptures enneigées, mais jeudi dernier, elle a subi une opération à une épaule qui nécessitera une convalescence. « Je vais me reprendre l'année prochaine », promet-elle. En attendant, Marie-Hélène Roch se permet de rêver. Et si les artistes intervenaient dans les opérations de déneigement de nos trottoirs? L'idée est lancée. C'était « Pascal aux mains d'argent », un texte de Émilie Côté, paru le 21 janvier 2024 dans La Presse.
Maman au travail, bébé anxieux? Un texte de Gabriel Brassard-Lecourt, paru dans l'édition janvier-février 2024 du magazine Québec Science. Un retour rapide au travail après un congé de maternité pourrait accentuer l'anxiété de séparation chez les enfants dans les premières années de leur vie. Au Québec, dans la plupart des cas, on a la chance de pouvoir s'arrêter de travailler plusieurs mois pour accueillir son bébé tout en recevant une partie de son salaire. Mais, dans certaines familles, cette réduction de revenus peut être difficile à encaisser. Dans un tel cas, qu'est-ce qui est le moins préjudiciable pour l'enfant? Le garder longtemps à la maison et vivre un stress financier? Ou retourner au travail rapidement? C'est la question qu'ont posée Gabrielle Garon-Carrier et Caroline Fitzpatrick, professeurs au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke. Dans une étude qu'elles ont publiée en juillet 2023 dans la revue Health, Education and Behavior, elle démontre les bienfaits d'un congé de maternité plutôt long que court sur la santé mentale des enfants. Nous avions déjà des données sur l'influence d'une entrée rapide en milieu de garde sur les troubles du comportement chez les enfants ou encore sur les effets socio-affectifs et cognitifs de certaines dynamiques familiales précaires. Mais très peu d'études étaient centrées sur les congés parentaux et leur lien avec le bien-être des enfants, explique Gabrielle Garon-Carrier. Les études étaient axées sur les aspects économiques chez les parents en congé plutôt que sur les aspects affectifs et centrées sur les enfants, ajoute-t-elle. D'après les travaux des chercheuses, menée sur des enfants de 17 mois à 6 ans, un congé de maternité de plus de 5 mois diminuerait de manière importante le risque de développer un problème d'anxiété de séparation pendant la petite enfance, et ce, malgré une situation financière précaire. J'ai été surprise de constater que la situation économique précaire, si elle est temporaire, contribue moins à l'anxiété des parents, et donc des enfants, qu'un retour rapide au travail, confie la scientifique. Attention, cela ne signifie pas que si une mère doit retourner rapidement au travail, son enfant vivra obligatoirement de l'anxiété de séparation, tient à préciser Gabrielle Garon-Carrier. Et il y a également des manières de prévenir cette anxiété auprès de l'enfant, en le rassurant, par exemple, ou en établissant une routine claire, en la lui expliquant, en le réconfortant, croit la professeure. Plus de 1295 familles québécoises ont été sondées pour cette étude, réparties en trois groupes de mères qui, 5 mois après la naissance de leur enfant, étaient soit en congé de maternité sans difficulté financière, soit en congé de maternité et en situation de précarité économique, soit retournées au travail. En guise de solution, les chercheuses proposent, par exemple, des changements dans les politiques publiques afin que le congé de maternité soit mieux rémunéré. L'idée serait que le pourcentage du salaire déjà payé soit plus élevé pour les familles à risque de précarité financière. Détail Gabrielle Garon-Carrier. Elle ajoute aussi que la durée de la couverture salariale à 70 % pourrait être plus longue que 18 semaines. Cette recommandation de simplement rémunérer le congé parental peut toutefois s'appliquer à d'autres pays, comme aux États-Unis, où il n'y a pas de congé payé du tout, affirme la chercheuse. Le constat s'adresse à tous les parents, bien que l'étude se penche sur les mères. Quand on parle d'anxiété de séparation, on parle de la figure d'attachement principale. Ça peut être le père, mais comme le congé le plus long est encore attribué à la mère, il s'agit souvent d'elle, spécifie Gabrielle Garon-Carrier. Dans les prochaines années, grâce à un nouveau financement, la professeure et son équipe s'intéresseront au congé parental, donc du côté du père aussi, et à ses retombées sur la santé mentale des parents. L'avis du jury. Plusieurs pays n'ont pas la chance d'avoir un congé de maternité payé comme au Québec. Cette équipe confirme l'importance de prendre du temps à la naissance des enfants. C'était « Maman au travail, bébé anxieux » un texte de Gabrielle Brassard-Lecourt paru dans l'édition janvier-février 2024 du magazine « Québec Science ».